Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Nicolas Ignatieff, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan. Un an, c'est le temps qu'il aura fallu au projet de loi sur la biodiversité pour franchir la distance qui sépare l'Élysée de l'Assemblée nationale. Présenté en Conseil des ministres en mars 2014, le texte commence seulement à être examiné ce lundi par les députés. Il s'agit de la deuxième grande loi française de protection de la nature après celle de 1976. Principale mesure, la création en 2016 d'une agence nationale de la biodiversité. L'intérêt pour la France de se doter d'une telle structure n'est pas mince. Notre pays, grâce à ses territoires d'outre-mer et à son espace maritime, se classe au quatrième rang mondial de la biodiversité, donc en première ligne s'agissant de la protection de celle-ci, étant admis que la biodiversité est menacée, qu'elle l'est de plus en plus et que l'activité humaine en est directement responsable. Mais cette question est peut-être sujette à débat. En 2010, en tout cas, la conférence de Nagoya s'était donnée pour mission de mobiliser d'importantes ressources financières afin de créer 17% d'air protégé sur Terre et 10% en mer, et ce à l'horizon 2020. Objectif sans doute louable, mais bien difficile à atteindre. Alors, biodiversité, a-t-on les moyens de protéger toutes les espèces? C'est notre sujet du jour. Et trois invités pour en discuter ce soir. Gilles Boeuf, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes biologiste, vous présidez le Muséum National d'Histoire Naturelle, qui, rappelons-le, se trouve à Paris. Lors de votre leçon inaugurale au Collège de France, vous aviez parlé de la biodiversité de l'océan à la cité. Cette leçon inaugurale, on peut la retrouver publiée aux éditions Fayard. C'était l'an dernier. Pour discuter avec vous ce soir, Christian Levesque, bonsoir.
Bonsoir.
Hydrobiologiste, vous êtes directeur de recherche émérite à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Vous avez notamment signé au Cavalier Bleu en 2011 « La nature en débat, idées reçues sur la biodiversité ». Puis notre troisième invité, Hélène Torjman, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, maître de conférence à l'Université Paris 13. On vous doit, pour la revue Mouvement en 2012, un article intitulé « L'idéologie marchande au service de la biodiversité ». Alors, sans passer l'émission sur un exercice de définition de ce qu'est la biodiversité, mais c'est vrai qu'en préparant l'émission, on s'est dit finalement c'est assez simple, la biodiversité, ce sont les animaux domestiques et les animaux sauvages, et puis on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est complexe pour un terme qui finalement est assez récent, Gilles Boeuf.
Oui, il a été créé par un écologue américain qui s'appelait Walter Rosen, proposé en 1985, et popularisé par Wilson, qui est le grand homme, qui est un spécialiste des fourmis, qui parlera de biodiversité, en 86. Donc c'est assez récent. Pour la définir simplement, je dirais que c'est surtout pas que des animaux, hein, et c'est surtout pas une liste d'espèces ou un catalogue. Hein. Ça, je pense qu'on a trop l'habitude de comparer biodiversité à un nombre d'espèces dans un écosystème. C'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus pour moi l'ensemble des relations que tous les êtres vivants ont établies entre eux et avec leur environnement. Une définition la plus simple que je puisse trouver, c'est la fraction vivante de la nature, c'est la biodiversité. Mais surtout, on est d'abord un monde du micro-organisme avant tout le reste.
Donc il faut penser interaction. Christian Levesque, vous dites que c'est un mot valise, la biodiversité.
Oui, je dis que c'est un mot valise et j'ai tendance un peu à différencier ce qui est diversité biologique. Nous avons une convention sur la diversité biologique, pas sur la biodiversité, et ce qui est biodiversité. Diversité biologique, c'est un peu ce que Gilles Boeuf vient de décrire, c'est-à-dire l'ensemble du monde vivant. Et en tant que scientifique, je crois savoir ce que c'est. Je travaille à la fois sur la connaissance de ce monde vivant et sur les interactions entre les êtres vivants. Le mot biodiversité a été créé effectivement par Wilson, mais dans le cadre d'un congrès sur la biologie de la conservation, et il a été repris largement par les ONG de conservation de la nature pour en faire un slogan. Il faut être très clair, biodiversité, c'est un slogan autour de la conservation de la nature.
Donc vous diriez que ça n'est pas seulement, ou peut-être pas avant tout, un terme scientifique, mais un terme à usage politique ?
C'est un terme à usage politique qui a été utilisé pour essayer de faire pression sur les politiques, de manière à pouvoir protéger la biodiversité.
Gilles Boeuf, quand on parle de biodiversité, ça n'est pas quelque chose de neutre ?
Non, pas du tout. Il était scientifique au début. Et en 92, à la conférence du Rio, il est passé du terrain scientifique, on ne le connaissait que dans les laboratoires d'écologie, hein, au terrain politique et au terrain de la lutte écologique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle partout en permanence. C'est pas que c'est pas si simple que ça, en fait, à définir, mais chacun y met un petit peu ce qu'il veut. Ce qu'il faut simplement se rendre compte, c'est que surtout, il faut inclure l'humain dedans. surtout pas le mettre à côté de cette diversité biologique.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un terme qui est aussi, ou qui s'est laissé approprier par le terrain économique, Hélène Torgeman?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on a un glissement sémantique que vous notiez, monsieur l'évêque, tout à l'heure, au début de la diversité biologique, ensuite à la biodiversité, et aujourd'hui à ce qu'on appelle les services écosystémiques, qui sont encore autre chose, et qui sont la manière dont la biodiversité ou la diversité biologique entre dans le domaine de la production marchande.
Donc en fonction de la façon dont on nomme les choses, on peut deviner quel est l'objectif qui est recherché derrière, Hélène Torgeman.
En tout cas, le langage n'est certainement pas neutre et effectivement, il y a tout un projet derrière. En l'occurrence, service écosystémique, c'est la manière de démembrer, fragmenter la nature et sa complexité en objets simples, stable, bien défini, donc contour bien défini, pour pouvoir ensuite les faire rentrer dans les étapes de l'évaluation monétaire et la valorisation marchande.
Alors, dénombrer la nature pour la faire rentrer dans des contours bien définis, encore faut-il que ce soit possible. Christian Levesque, est-ce qu'on est capable de dénombrer, par exemple, aujourd'hui, ou en tout cas d'estimer à peu près le nombre d'espèces présentes sur Terre?
Alors, il y a beaucoup d'estimations qui traînent dans la littérature. Très peu sont fiables, d'autant plus que la notion d'espèce est largement remise en question à l'heure actuelle. Beaucoup de biologistes considèrent que la notion d'espèce est une notion un peu normative, un peu comme disait Madame tout à l'heure, et que derrière cette notion, il y a beaucoup d'interprétations possibles, notamment lorsqu'on s'adresse aux micro-organismes, la notion d'espèce n'a plus de sens. Donc voilà, donc nous travaillons avec ça parce que nous n'avons rien d'autre de pratique, mais cette notion d'espèce n'a pas de réalité scientifique. Il y a énormément de soi-disant espèces qui sont constituées de populations qui ont des génotypes très différents ou qui peuvent avoir des comportements très différents.
Bon, alors est-ce qu'on peut envisager de protéger ce que l'on connaît mal, ce que l'on n'est pas capable, en tout cas de dénombrer de manière, si ce n'est extrêmement fine, mais même un petit peu globale, Gilles Boeuf?
Bah, la seule façon de faire, c'est de protéger les milieux et pas les espèces. Par exemple, pour une bactérie, je dis souvent, une bactérie, comme elle passe son temps à échanger des gènes avec ses collègues d'à côté, il faut plus de temps pour fixer une bactérie que pour faire une girafe. Donc la notion d'espèce est très difficile à utiliser. Le quad dit chez nous que la notion d'espèce a été inventée par les humains. Donc je suis beaucoup plus, moi, un protecteur d'écosystèmes que d'espèces, bien entendu.
D'ailleurs, quand on se place du point de vue de la protection, et là, je continue un petit peu cette espèce de travail de définition qu'on fait avant d'aller vraiment dans le débat de savoir si on a les moyens de protéger toutes les espèces. Mais puisqu'on parle de protection, ça induit l'idée que la biodiversité est en danger. Est-ce qu'on a des preuves irréfutables, Gilles Boeuf, aujourd'hui, que cette biodiversité est en danger? Quand je dis si elle est en danger, qu'elle l'est davantage qu'elle ne l'a pu l'être dans d'autres périodes de l'histoire de la Terre, puisqu'il y a eu énormément d'extinctions d'espèces. Hein.
Alors, on remonte à peu près à 600 millions d'années. Enfin, avant, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, parce que c'est très loin, les traces sont très faibles, et puis surtout, il a fallu que la nature invente des choses géniales pour les scientifiques, qui sont les cuticules, les carapaces et les os, pour qu'on ait des fossiles dignes de ce nom. Donc, depuis 600 millions d'années, on compte à peu près une soixantaine de crises d'extinction. Et sur ces 60 crises, il y en a 5 qui sont majeures, la définition ayant été donnée en 2011 d'un papier dans Nature qui disait que une crise d'extinction, c'est l'extinction d'au moins les 3/4 des espèces dans l'océan et sur les continents. Il faut toujours prendre l'océan, il ne faut pas oublier l'océan, en un temps court. Et c'est là que c'est compliqué de discuter avec le monde politique aujourd'hui, parce qu'un temps court pour un géologue, c'est au moins le demi-million d'années.
Alors, l'extinction, par exemple, des dinosaures, ça fait partie de ces 5 phases d'extinction?
Oui, ça s'est passé d'ailleurs pas forcément uniquement. Il y a 65,5, on en avait déjà 70% qui avaient disparu un petit peu avant. Quelques-uns passent la fameuse crise en question. Il y a eu des crises. On passe par ce que Gould appelait les équilibres ponctués, des longues périodes dans l'évolution durant lesquelles il ne se passe pas grand-chose, parce que ça ne bouge pas, et des époques très particulières. En fait, le vivant réagit à des agressions et à des changements par des spéciations.
Et aujourd'hui, on serait dans une 6e phase d'extinction?
Alors ça, c'est une question qui a été posée par certains qui ont dit, est-on en train de créer les conditions d'une 6e crise d'extinction qui n'a rien à voir avec les précédentes? Ce qu'il faut simplement dire, c'est qu'à chaque fois, les causes de ces crises sont extrêmement diverses. C'est jamais une cause particulière qui explique ceci. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, les gens qui ont proposé cette idée disent effectivement, le responsable, c'est l'activité humaine. N'oublions jamais avec l'humain ces animaux domestiques. Je donne juste un chiffre. Il y a 10 000 ans, toute la biomasse des humains et toute la biomasse des animaux domestiques mammifères, c'est 0,1% de tous les 5000 espèces de mammifères connues. Aujourd'hui, c'est 90%. Montrer l'importance de l'humain aujourd'hui sur cette planète.
Alors, c'est vrai que cette idée d'une sixième phase d'extinction massive est quand même assez régulièrement reprise aujourd'hui dans la littérature sur la biodiversité. Est-ce que ça a une valeur, d'après vous, Christian Levecq, scientifique, ou est-ce que c'est là aussi quelque chose avec un but politique? C'est-à-dire, est-ce que ça sert là aussi un discours particulier?
Ouais, alors, il serait d'abord stupide de nier que l'homme n'a pas d'impact sur la diversité biologique. L'homme a un impact, c'est clair. Cet impact est souvent négatif, mais pas toujours. Nous, en France, en Europe, nous avons créé des milieux, des écosystèmes qui sont riches en diversité biologique, tels que les bocages ou un certain nombre d'écosystèmes de ce type. Donc,
La nature telle qu'on la connaît en France aujourd'hui, c'est quand même une nature qui a été façonnée par l'être humain.
Absolument. Partout. C'est une nature, ce que j'appelle une nature hybride. Bon, alors, cette histoire de sixième crise d'extinction, c'est quand même quelque chose qui est lié à la philosophie sous-jacente au mouvement protectionniste. En gros, l'idéologie des mouvements protectionnistes, c'est de stigmatiser l'action de l'homme. Et donc de faire en sorte qu'on trouve les moyens de protéger le maximum de nature des activités humaines. Alors, tout est question d'importance que l'on donne à l'impact des activités humaines. Si l'on considère que, comme en Europe, en France, c'est, je dirais, moitié-moitié, il y a très peu d'extinction d'espèces, mais on a aussi créé des milieux et des conditions favorables à l'arrivée d'autres espèces. Dans d'autres pays, la situation peut être différente. Il n'empêche que cette notion de sixième extinction de masse, c'est quelque chose qui a été le raisonnement au bout de la logique. C'est-à-dire, en gros, je voudrais faire une comparaison un peu hasardeuse, mais c'est un peu l'enfer du Moyen-Âge. On vous promet l'enfer au Moyen-Âge, on vous promet la sixième crise d'extinction à l'heure actuelle en raison des activités humaines. Et je pense que derrière ça, il y a beaucoup d'idéologie et il n'y a pas beaucoup de résultats probants. Sur le plan scientifique, nous avons des résultats sur un certain nombre de groupes, notamment chez les vertébrés, d'espèces qui disparaissent, et c'est indéniable. De là à dire qu'il va y avoir 20, 30, 40% ou la moitié des espèces, comme un certain nombre de gourous l'ont dit au cours des dernières décennies, sans jamais être démenti, c'est quand même inadmissible sur le plan scientifique.
Hélène Torgemann.
Là, je pense qu'il faudrait quand même faire une petite séparation entre biodiversité sauvage et biodiversité cultivée. Et c'est vrai qu'au niveau de la biodiversité cultivée, la perte de biodiversité est considérable et elle a pu être à peu près approximée. La FAO, par exemple, dans un rapport de 2010, montre qu'on a perdu en un siècle environ 70% de la biodiversité cultivée, parce qu'on ne cultive plus que les mêmes espèces et mêmes variétés en monoculture. On a peut-être une centaine de milliers d'espèces de riz, on en cultive 6, etc. Donc il y a... Peut-être il faut faire une différence là entre biodiversité sauvage et biodiversité cultivée concernant l'action de l'homme.
Gilles Boeuf.
Vous savez, c'est difficile de faire la différence entre les deux. Je rentre juste d'Inde. Quand je vois les bichnoïs, par exemple, dans le désert du Rajasthan, qui protègent depuis 5 siècles des gazelles et des antilopes, sont-elles domestiques? Sont-elles sauvages? Je ne sais plus. Puisqu'on leur laisse une partie de la culture qui est pour elles, on les nourrit. Maintenant, on a une surpopulation de ces gazelles, ces antilopes, parce qu'il n'y a plus les prédateurs qui les contrôlaient à l'époque. Donc, c'est très subtil et très difficile. Quand vous regardez ce qu'on mange en animaux domestiques, en viande, on mange 5 viandes. Toute la planète, sur toutes les plantes qui sont cultivées, on en mange plus de 50%, c'est 5 plantes. Et c'est vrai que je rejoins tout à fait madame, la perte de diversité génétique au sein des espèces cultivées est un véritable problème aujourd'hui, autant chez les animaux que chez les végétaux. Mais la différence domestique et puis sauvage est très difficile à faire. En Afrique, le type, il a des zébus, des vaches, il y a un lion qui vient qui lui mange 2 vaches. En Inde, on a un tas de choses en fait, qu'on cultive sans les consommer. Donc, c'est très subtil, la différence. Et ça relance le débat sur la protection, effectivement, des droits de l'animal, où on veut me séparer les domestiques des sauvages, ce qui me gêne aussi un petit peu.
Alors, ça nous conduit à se poser la question de savoir quelles sont les espèces qui méritent d'être protégées. Est-ce que c'est d'ailleurs comme ça qu'il faut poser la question, Christian Levecq?
Oui, alors avant, je voudrais simplement dire que le mot conservation est piégé. Conservation donne l'impression que l'on doit conserver à l'identique. Or, il faut savoir que la diversité biologique, c'est le produit du changement. Donc nous sommes sur des évolutions plus ou moins rapides selon les espèces, selon les milieux, etc. Mais la biodiversité, c'est le changement. Ça n'est pas le statu quo. Donc il faut déjà avoir ça en tête. Maintenant, faut-il protéger toutes les espèces? Bon, d'abord, on sait parfaitement qu'on ne connaît pas toutes les espèces et que donc il est bien difficile de dire que l'on va protéger toutes les espèces.
Bon, mais si on se limite à celles qu'on connaît, on en connaît combien d'ailleurs?
2 millions environ. Et on spécule sur 10, 20, 30 millions, peu importe. Mais comme disait Gilles, ce qui est peut-être important, c'est de protéger des systèmes écologiques, des écosystèmes. La deuxième chose, c'est qu'on parle toujours de protection de la diversité biologique. Moi, j'ai passé une partie de ma carrière à lutter contre la diversité biologique. On lutte contre les grandes endémies, on lutte contre les maladies des hommes, des animaux, des plantes. Et ça, ça mobilise des moyens considérables dans le monde. Donc, et par contre, ces deux mondes, le monde des gens qui luttent contre la biodiversité et les gens, les conservationnistes, ne se parlent jamais. Jamais, jamais, jamais. Il y a vraiment là un problème de fond.
Mais pourtant, les deux stratégies peuvent être compatibles. C'est-à-dire, on peut à la fois lutter contre certaines diversités biologiques si on considère que c'est nuisible, notamment nuisible pour l'homme, mais en même temps protéger d'autres espèces ou d'autres milieux naturels.
C'est ce que nous avons essayé de faire dans certains programmes en Afrique, notamment de lutte contre les grandes endémies, où nous essayons de lutter contre les vecteurs en essayant de protéger, c'est-à-dire de casser le moins possible la faune en utilisant des insecticides. Donc, mais c'est vrai, c'est possible. Mais dans le système international, vous ne voyez jamais des conférences où participent à la fois des gens qui luttent contre la diversité biologique et ceux qui les protègent.
Pensez la protection de la biodiversité, Gilles Boeuf, ça supposerait aussi d'accepter de penser une partie de sa destruction ? C'est-à-dire de considérer que certains milieux ou certaines espèces on peut s'en passer.
Le problème, c'est qu'on met toujours trop l'humain au centre. C'est clair. L'humain est dans cette diversité. Il contribue par ses comportements à créer des pathogénies qui n'existeraient pas autrement. La nature n'a pas inventé à 500 millions d'années des espèces pour emmerder les humains. Aujourd'hui, on me raconte des trucs sur les nuisibles et utiles. C'est un des termes qu'on n'utilise pas, en fait. Donc, c'est vrai que moi, je peux parfaitement comprendre que des gens, effectivement, veuillent non pas éliminer, mais fortement diminuer les effets de certaines pathologies. Mais n'oublions pas que ces pathologies, souvent, sont créées par les activités de l'humain lui-même. Si on prend l'écosystème intestinal, par exemple, on a des méthodes aujourd'hui de régulation écologique du microbiote intestinal sans utiliser des antibiotiques. Donc, tout est compliqué. On sait que si on coupe les forêts du Gabon, Ebola sort parce que les chauves-souris en sortent. Il y a plein d'aspects, en fait, qui sont liés aux activités humaines sur le système. Alors, le mot conservation.
Donc, ça veut dire que des endroits où il n'y aurait pas de présence humaine se porteraient beaucoup mieux et que la nature se régulerait de manière optimale.
Mieux du point de vue de qui ? C'est ça la question. Le mot conservation, je rejoins Christian, la nature ne peut pas être conservée. Ce qu'il faut conserver, c'est sa capacité à évoluer dans des conditions de changement. Ça, c'est fondamental. Et là, je rejoins madame sur les problèmes justement de conservation de souches, de variétés d'intérêt agronomique. Ça, c'est fondamental, ça. Donc, c'est beaucoup plus subtil que des choses très claires en disant qu'il y a un combat entre ceux qui veulent détruire les pathogènes et ceux qui veulent sauver la nature. C'est pas du tout aussi simple que ça. Mais chaque fois qu'on intervient sur des écosystèmes naturels, on les perturbe et par conséquent, on a des réactions qui sont souvent imprévisibles. La nature est extrêmement souvent contre-intuitive par rapport à ce qu'on a imaginé au départ.
Hélène Tortman.
Oui, je vous rejoins tout à fait tous les deux sur la complexité, évidemment, de la nature, de la diversité biologique, qui sont une somme d'interactions, d'interdépendances absolument phénoménales que l'on ne comprend pas du tout, enfin, dont on comprend certains aspects, mais on a certainement pas du tout fait le tour de ça. Et c'est pour ça que, me semble-t-il, les solutions qui sont proposées aujourd'hui pour protéger la biodiversité via des instruments de marché, comme ce qui est proposé par la Convention sur la diversité biologique qui a été signée en 1992, sont vouées, à mon avis, à l'échec parce que on ne prend pas en compte cette complexité. On essaye de la nier, en fait. Et ça ne peut pas marcher.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
À la biodiversité, a-t-on les moyens de protéger toutes les espèces ? C'est autour de cette question que nous discutons. Ce soir. Décidément, j'ai du mal avec ce mot. Gilles Boeuf, Hélène Tortman et Christian Levesque. Christian Levesque, vous souhaitiez réagir à ce qui vient d'être dit. Effectivement, la biodiversité, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Mais si on veut protéger, et il me semble que même si vous n'êtes pas forcément tout à fait d'accord sur le diagnostic, en tout cas, il y a peut-être une forme de consensus pour dire il y a certaines espèces ou il y a certains milieux qu'il est nécessaire de protéger. Peut-être qu'il y a besoin d'aller vers une individualisation des éléments qui la composent et peut-être même lui donner un prix pour pouvoir mieux la protéger.
Oui, ça c'est l'opinion d'un certain nombre d'économistes. Mais je voudrais revenir très rapidement sur la notion de conservation. Si je prends l'exemple de l'Europe et de la France, notre diversité biologique est constituée essentiellement d'interactions homme-processus spontané. Nous avons des milieux qui sont des milieux qui sont gérés pour certains usages. Par exemple, je vais prendre un exemple, les étangs de Sologne étaient gérés pour faire du poisson. Le poisson d'eau douce n'est plus commercialisable ou plus intéressant. On utilise maintenant les étangs de Sologne pour la chasse, parce que c'est beaucoup plus rentable. Donc on voit bien qu'il y a des changements d'usage et que ces changements d'usage permettent de maintenir une diversité biologique qui est créée par l'homme.
Donc il ne faut pas écarter la notion de rentabilité, c'est ce que vous nous dites ?
Il ne faut pas écarter la notion de rentabilité et il ne faut pas écarter la notion que si l'on veut conserver la diversité biologique dans nos pays, il faut aussi qu'elle ait un certain usage. S'il n'y a pas d'usage, il y a un désintéressement. On voit bien que la forêt méditerranéenne maintenant, qui n'a plus les usages qu'elle avait autrefois, est plus ou moins menacée par les feux en particulier, parce qu'il n'y a plus les usages qui permettent d'entretenir la forêt. Et beaucoup d'opérations de conservation de la diversité biologique en France sont finalement le recours à des usages anciens qui permettent de maintenir une biodiversité que nous connaissions autrefois. Et donc, nous ne sommes pas simplement dans la notion d'air protégé sous cloche, nous sommes dans la notion de protection de la biodiversité via les activités humaines par des usages, ce qui est totalement différent de celle que l'on peut avoir habituellement.
Qu'est-ce que vous pensez, Hélène Tordjouan, de cette notion d'usage et donc de valeur d'usage peut-être, c'est-à-dire quelle valeur on donne à l'usage que l'on attend de la biodiversité ?
Je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, on ne peut pas mettre la nature sous cloche et que nous vivons dans la nature, en interaction avec elle, nous les êtres humains. Et donc, effectivement, il faut qu'on ait des usages respectueux qui fassent qu'on puisse coévoluer ensemble sans se détruire mutuellement.
Mais j'ai compris de ce que disait Christian Lévesque, c'était usage au sens aussi utile.
Oui, non mais voilà, justement, là il y a l'appareil, donc ce glissement sémantique dont je parlais de la biodiversité au service écosystémique, c'est qu'on passe à des usages beaucoup plus précis qui sont vraiment définis de manière totalement anthropocentrée. Qu'est-ce que la nature fait pour nous ? Quel service elle nous rend ?
Pourquoi c'est problématique, cette approche-là ?
Eh bien, parce que d'abord, on sépare, je vais juste vous donner pour une petite idée, des services écosystémiques que l'on distingue. Bon, en plus de la nourriture, de l'eau, des matières premières, des ressources génétiques ou médicinales que l'on a coutume de considérer. On a aussi la qualité de l'air, la régulation du climat, la régulation des flux hydriques, le maintien de la fertilité des sols, la prévention de l'érosion, la pollinisation, la protection des poules génétiques, l'information esthétique, ça je sais pas trop ce que c'est. Le développement cognitif, je ne sais pas trop ce que c'est non plus, l'inspiration pour l'art et la culture, l'expérience spirituelle, enfin bref, on a comme ça une espèce de fragmentation de la nature en des objets qui sont presque des objets de consommation économique, et là, ça devient, me semble-t-il, pernicieux ou pervers comme mode d'appréhension de la nature.
Gilles Boeuf, vous êtes d'accord ?
Tout ça a été proposé lors du document sorti en 2005 qui s'appelle le Millennium Ecosystem Assessment, où 1300 écologues du monde entier sont réunis pour essayer de proposer quelque chose. Je vais revenir sur les histoires d'espèces intéressantes ou utiles. Moi, on me dit souvent, dans le monde politique, on sauve que ce qui sert à quelque chose. Un exemple, le rat taupe nu. Le rat taupe nu, il est vraiment ultra moche. Il n'avait aucune chance au hit-parade de la protection il y a 10 ans. C'est un rongeur qui vit 50 ans. Il vit dans des terriers au Kenya. On se rend compte, il y a 7-8 ans, que cet animal ne développe jamais de tumeur. Et du jour au lendemain, le rat taupe nu, ultra moche, qui n'a aucun intérêt, devient en firmament des stars, des espèces d'intérêt pour l'humanité. On a plein d'exemples comme ça. Je prends notre exemple, une petite cellule du phytoplancton, un dinoflagellé, qui vit dans le golfe du Biscaye, s'appelle Goniolax. Il a depuis 800 millions d'années, et quand on le choque, il émet un photon. Et bien, quand un sous-marin nucléaire rentre dans une masse de Goniolax, l'océan s'illumine en pleine nuit, et il y a des images satellites qui sont vues partout. Et alors, du coup, il devient nuisible tout d'un coup, parce que ce truc... C'est là que cette notion très anthropocentrée d'utile ou nuisible perd tout son sens. Donc je pense qu'il faut arrêter cette idée de dire on sauve ce qui sert à quelque chose, on sauve ce qui est utile, on sauve ce qui est beau, pour garder une idée plus générale où finalement, cette diversité, on en a besoin viscéralement. Et puis, bah, encore une fois, on revient à des protections d'écosystèmes plus que d'espèces.
Alors dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question autrement et sauver ce qui a le plus haut coût ou le prix le plus élevé ? Et... question subsidiaire, si j'ose dire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour évaluer le prix de la biodiversité, Hélène Torgeman?
Écoutez, là, c'est vraiment, pour l'instant, c'est un peu au doigt mouillé, hein, excusez-moi. il y a des tas de méthodes d'évaluation environnementale qui sont développées, qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, mais toutes ont des faiblesses méthodologiques particulières, ça serait trop long de rentrer dans les détails. En tout cas, il n'y en a aucune qui permet de découvrir la vraie valeur d'un écosystème ou d'un service écosystémique. Et le problème, du point de vue de l'économiste, puisqu'on veut, hein, depuis la Convention sur la diversité biologique, on veut gérer de manière optimale, on va dire, la biodiversité. Pour que le système de prix, d'un point de vue de la théorie économique, pour que le système de prix soit capable de gérer optimalement toutes ces choses-là, il faut que les prix reflètent la vraie valeur des choses qui sont valorisées. Or, quelle est la vraie valeur d'un hectare de récif corallien ou d'un hectare de zone humide côtière? Je n'en ai aucune idée. Et par exemple, les dernières études qui ont été faites, qui recensent un petit peu qui font une espèce de synthèse de la valeur des écosystèmes via l'addition de tous ces services, arrivent par exemple, donc pour les récifs coralliens, juste pour vous donner une idée du doigt mouillé, le récif corallien, un hectare de récif corallien est valorisé évalué monétairement entre 37 000 dollars par an et plus de 2 millions de dollars par an. Donc à partir de ce moment-là, on n'a aucune idée de qu'est-ce qu'est la vraie valeur et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'un point de vue économique à partir de ça. Sincèrement, je doute.
Vous posez d'ailleurs vous aussi la question, Christian Levesque, dans votre livre sur les idées reçues sur la biodiversité, en disant comment apprécier la valeur monétaire d'un dauphin, d'un charançon ou même d'un homme.
Oui, ça, on voit bien que ces valeurs monétaires, ça intéresse beaucoup les compagnies d'assurance, parce que oui, lorsqu'il s'agit de dédommager les dégâts causés par une marée noire, on veut calculer quel est le prix de dédommagement d'un sterne ou d'un martin pêcheur, je schématise.
Et en même temps, comment faire autrement? C'est-à-dire, on est bien obligé d'en passer par là, non?
Oui, c'est pas sûr.
Mais
ce que je voulais dire, c'est que quand je parlais d'usage tout à l'heure, c'était pas forcément en termes monétaires. Je crois qu'il faut bien voir que l'usage que nous avons fait des milieux anthropisés, hein, de nos milieux, que ce soit, je disais tout à l'heure, les bocages ou un certain nombre de zones humides que nous avons créées, sont aussi affectés d'une certaine valeur affective, émotionnelle. Et je veux dire qu'il n'y a pas que l'argent qui compte. Il y a aussi tout ce que l'on met derrière en termes de patrimoine. Et il y a un certain nombre de gens qui, à l'heure actuelle, développent cette idée de biopatrimoine, c'est-à-dire de patrimoine qui est lié à notre activité humaine. Et qui n'est pas seulement de la nature sauvage et spontanée, c'est de la nature que nous avons construite. Je prendrai un exemple peut-être actuel, c'est le fameux lac de Der en Champagne, qui est devenu un haut lieu de la diversité biologique pour les oiseaux, etc. C'est une création humaine d'il y a 30 ans. C'est un biopatrimoine, au sens où nous avons créé ce milieu, et ce milieu, nous tenons à le gérer pour, à la fois, préserver Paris des inondations et à la fois pour sa valeur en matière de diversité biologique. Et c'est dans ce sens-là que je parle d'usage. Je pense que les usages que nous avons eus autrefois étaient des usages économiques, mais nous avons maintenant des usages ludiques ou esthétiques ou émotifs qui sont importants.
Donc l'approche affective pourrait être un critère de choix pour protéger la biodiversité, parce qu'on est bien d'accord qu'en période, a fortiori, de restrictions budgétaires où on ne peut pas mettre des efforts financiers partout, parce que protéger la biodiversité, ça ne se limite pas évidemment à mettre de l'argent, mais enfin, il faut quand même mettre un petit peu d'argent. Donc, l'aspect affectif pourrait être un critère, Christian Levesque, mais dans ce cas-là, on ne va pas protéger tout ce qui n'est pas visible. C'est-à-dire, on va protéger les biches, mais les amibes, par exemple, ça sera plus compliqué.
Il est évident que l'aspect émotionnel est un des éléments d'une protection de la biodiversité. Je n'ai pas dit que c'était le seul critère. Mais quand on interroge les citoyens, leur réaction est d'abord de nature émotionnelle. On protège certaines espèces parce qu'on les aime bien. On protège certains milieux parce que ça fait partie de notre tradition patrimoniale. Hein, je crois que... Et la protection des milieux, comme disait Gilles au départ, c'est ce qui, à mon avis, de beaucoup plus important. On ne peut pas se focaliser sur des espèces. Si le climat change, qu'est-ce que vous allez avoir comme espèce dans les aires protégées à l'heure actuelle? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et ça, il faut commencer à essayer d'anticiper.
Gilles Boeuf, ensuite Hélène Torgeman.
Tout à fait, bien sûr. Et surtout qu'on revient à la conservation tout à l'heure. Moi, je suis président d'une réserve naturelle dans les Pyrénées. La forêt de la Massane, on n'a pas coupé un arbre depuis 180 ans. On a une diversité exceptionnelle. C'est le plus haut point chaud en Europe, reconnu. Hein. On est à 7000 espèces sur 350 hectares. Bon, le climat est en train de changer. Ma forêt, donc, je la protège comme la prunelle de mes yeux. Le problème, c'est que je paye la canicule de 2003 et des arbres qui meurent, ça prend quelques années. Je paye les sécheresses répétées depuis 2006 et les 15 000 poids lourds qui passent au col du Pertus et qui amènent de l'ozone sur ma forêt. Donc, la protection de zone peut très bien être affectée de façon dramatique par le changement global qu'on évoquait tout à l'heure, y compris le dérèglement climatique dans lequel l'humain a bien sa part. Donc, tout ça demande effectivement des nuances de réflexion et de relation avec les systèmes. Je rentre juste d'Inde là. Et j'ai vu en Inde, j'étais bouleversé par l'Inde. Bangalore, c'est plus d'habitants qu'à Paris. Au centre de Bangalore, vous avez 8 millions d'habitants. Vous avez des animaux domestiques partout, des vaches en plein centre de Bangalore, des chats, des chiens, il y a des moutons, il y a des chèvres, il y a des cochons, et il y a de la faune sauvage. Il y a des cobras, j'en ai attrapé deux dans le jardin, il y a des léopards au centre qui viennent manger les chiens, et vous avez aussi des singes partout, des macaques. Comment dans un tel pays, on doit regarder des exemples comme ça pour nous, avec nos critères à nous d'écosystème.
On doit tirer quelle leçon de cet exemple indien.
Et bien qu'on peut très bien aller vers des systèmes bien différents de ce qu'on pense nous, avec une harmonie entre animaux domestiques, animaux sauvages et puis humains, dans un contexte très difficile. Tout à l'heure, Christian parlait avec justesse, on s'intéresse aux poissons tous les deux, il y a plus de poissons en France qu'il y a 120 ans, d'espèces de poissons, parce qu'on en a introduites. Donc, où est la réalité et surtout, où est la référence pour dire un écosystème se porte bien ou il ne se porte pas bien? Ça, c'est une question très délicate pour nous. Et quand on me fait référence au bon état des écosystèmes, je ne sais pas trop ce que c'est.
Hélène Torchman.
Oui, revenir sur la question des usages. Parce qu'effectivement, le gros problème aujourd'hui, c'est la compatibilité entre l'activité humaine et la préservation d'une nature qui est bien sûr anthropisée, mais qui néanmoins reste toute pourvoyeuse de toute cette richesse et cette diversité. Il me semble que ce sur quoi on devrait vraiment réfléchir de manière beaucoup plus sérieuse que ce que l'on fait, c'est sur notre genre d'usage, justement, de la nature. Prenez l'agriculture. On a des usages qui permettent, donc des pratiques agricoles qui permettent de préserver les écosystèmes et d'enrichir les écosystèmes dans lesquels elles prennent lieu, et d'autres usages, d'autres types d'agriculture qui, au contraire, détruisent tout. L'agriculture intensive, les OGM, la monoculture super chimique, etc., ça détruit absolument tout, la vie des sols, etc. Alors que, par contre, on fait de la rotation des cultures, de l'agriculture vivrière, de toute une série de choses de ce genre-là, où l'usage est au contraire aide à préserver la biodiversité. Donc c'est sûr qu'il faut associer les hommes, on ne peut pas sanctuariser la nature comme ça, les hommes font partie de la nature et leurs usages durent, l'usage que les hommes font de la nature dure depuis la nuit des temps, mais il faut réfléchir au type d'usage que l'on promeut. Voilà.
Christian Levesque, est-ce que vous avez l'impression que parfois, à travers le discours de la biodiversité, se cache ou se dissimule un discours qui tendrait justement à écarter les hommes, ou en tout cas l'activité humaine ?
Très clairement, oui. Je veux dire que je ne mets pas tous les mouvements de conservation de la nature dans le même sac, mais certains sont des mouvements complètement idéologiques qui frisent ce qu'on appelle le créationnisme. Je crois qu'il y a...
C'est-à-dire le retour au paradis perdu, notamment, voilà. Puis l'idée qu'il y avait un ordre naturel...
Je ne voudrais pas être méchant, mais je pourrais citer un certain nombre de personnes célèbres, y compris des scientifiques, qui ont écrit...
Gilles Boeuf, j'espère.
Pas
Gilles Boeuf, j'espère.
Non, mais un de ses prédécesseurs... qui ont parlé de l'homme comme cancer de l'humanité, etc., etc. Je veux dire que on voit bien que derrière cette biodiversité, ce slogan biodiversité, il y a tout un tas de représentations du monde et de la nature, et ça, ce qui renvoie, je dirais, à notre, ce qu'on appelle parfois le mythe des origines. Je veux dire qu'on sait plus très bien quel est le monde que l'on souhaiterait avoir, ni le monde dans lequel on souhaiterait vivre. Mais la question que l'on doit se poser, nous, en tant que scientifiques et individus sociaux, c'est, en gros, quelle nature voulons-nous? Dans quelle nature voulons-nous vivre? Je crois que c'est peut-être la question qu'on pourrait poser d'une autre manière, plutôt que de dire on va protéger. On peut pas tout protéger. De toute façon, en Europe, on l'a dit, avec le changement climatique, les choses évoluent. On voit arriver des espèces thermophiles, c'est-à-dire de pays chauds, et on voit disparaître un certain nombre d'espèces. Donc, dans quelle nature on veut vivre en France?
Est-ce que vous êtes d'accord, tiens, avec ça, Gilles Boeuf ? On ne peut pas tout protéger, mais il faudrait se dire quoi ? Protégeons tout ce que l'on peut protéger ?
Ce qu'il faut voir, c'est que les gens sont focalisés sur les extinctions d'espèces. Et ça, à l'échelon d'une vie humaine, ce n'est pas le bon critère. Moi, qui suis un marin, on connaît en 4 siècles 18 espèces marines disparues. Donc le critère n'a pas d'intérêt. Ce qui nous préoccupe, c'est l'effondrement des populations. Dans les travaux faits récemment, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a un travail publié par le WWF en 2014, où ils disent, ils ne parlent pas d'extinction, ils parlent d'effondrement des populations, en fait, animales, en l'occurrence de vertébrés, et on en a perdu la moitié, avec des pics en Amérique latine, liés aux cultures OGM, en particulier en Argentine. La question, elle est là, c'est que, encore une fois, les extinctions se passent sur des temps beaucoup plus longs que l'appréciation en fait d'une vie humaine. Qu'est-ce qu'on a perdu en mer ? La rétine de Steller, une grosse vache marine qui a été massacrée bêtement, de façon stupide, au début du fin 19e, début 20e. On a quelques oiseaux marins qui sont éteints. On a un poisson déclaré officiellement disparu. Il vivait dans les polders hollandais. Maintenant, il y a des vaches qui mangent de l'herbe dans ces polders. Donc, il est parti. Donc, pour moi, ce n'est pas le bon critère. Par contre, l'effondrement des populations, oui. L'effondrement des stocks de morue de façon inconsidérée à Terre-Neuve. Le stock de thon rouge qui a quand même failli être très plus que perturbé. Et là, je reviens à une question économique. Comment peut-on tolérer aujourd'hui qu'on vende un seul thon sur le marché japonais plus de 1 million d'euros et que ça appartienne au type qui est allé le chercher, alors que ce thon est autant un Christian qu'un madame ou à moi. Donc il y a des vraies questions économiques qui sont posées. Cet argent devrait être servir effectivement à retravailler sur les populations de thon rouge, à travailler sur des mesures intéressantes. Je ne suis pas un anti-pêche ni un anti-chasse. Je suis viscéralement un anti-chasse stupide et un anti-pêche stupide.
Donc donner un prix aux espèces pour les protéger, ça n'est pas forcément une bonne idée. Hélène Torgeman, il faudrait plutôt leur enlever toute valeur marchande pour éviter la spéculation. Enfin, en tout cas, voilà, la notion du prix.
Le risque, enfin, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que pour arriver à donner un prix, il faut toute une série d'opérations préliminaires en amont de normalisation, de standardisation, de définition qui aboutissent à, encore une fois, une vision complètement fragmentée de la nature qui passe à côté de toutes les interdépendances. Donc ça, déjà, c'est quand même vraiment problématique, puisque c'est contraire à la nature même de la biodiversité. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on donne un prix, ça veut dire qu'on peut créer de la valeur. C'est-à-dire que dans l'échange marchand, le fait qu'il y ait un prix et un échange marchand va aboutir à une création ou à une perte de valeur, mais en tout cas une augmentation ou une diminution du capital.
Mais l'approche inverse, ça veut dire que c'est gratuit, qu'on peut donc se servir. Il y a peut-être un certain nombre de pays qui ont besoin de donner un prix à leur biodiversité pour se protéger.
Le problème, encore une fois, d'abord, c'est que certains pays, aujourd'hui, on vit dans un monde complètement globalisé, mondialisé. Donc, ce que font certains pays n'a pas beaucoup d'impact sur les activités de tous les industriels, par exemple. Et les industriels vont saisir ces opportunités-là de valorisation de la nature pour faire de nouveaux profits. Et donc, il y a des nouvelles activités qui sont en train de se profiler sous couvert de protection de la nature, qui sont en fait des activités purement capitalistes. Et ça, c'est en danger.
Christian Levesque, c'est une fausse bonne idée ?
Oui, moi, j'ai dit à diverses reprises que cette notion de service écosystémique, c'était une OPA des économistes pour essayer de mettre la main sur la diversité biologique. On voit bien, alors, on vient de parler des pêches maritimes, Gilles connaît bien ce problème, mais si c'était si simple que ça, on l'appliquerait aux pêches maritimes. Or, on est absolument incapable de l'appliquer aux pêches maritimes où c'est un rapport de force, il faut être très clair, et non pas un rapport de force économique. Hein, c'est un rapport de force pour accès à une ressource. Hein, voilà. Donc, je pense que cette notion de donner un prix à la diversité biologique n'a pas de sens. Par contre, je pense que donner une valeur à la diversité biologique, qu'elle soit ludique, esthétique, éthique, émotionnelle, tout ce qu'on veut, ça c'est fort. Et c'est probablement plus à partir de ça qu'il faut se baser pour essayer d'aller vers la conservation de la diversité biologique.
Et en un mot, Gilles Boeuf, c'est à ça que devra servir notamment l'Agence nationale de la biodiversité, dont on dit qu'elle verra le jour en 2016.
Voilà, il y a cela d'un côté. Et puis surtout maintenant, je trouve très bien, c'est qu'on ne fera plus aucun projet humain, quel qu'il soit, sans mesurer a priori son impact putatif sur la biodiversité, la diversité biologique. Je pense que c'est une bonne idée.
Ce qui aurait pu être utile dans un certain nombre de dossiers récents. Je pense par exemple au barrage de Sivens. Voilà. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Christian Levesque, Hélène Torgeman, Gilles Boeuf. Les références bibliographiques, elles sont sur notre site, comme toujours. franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Cette émission, vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours, ce qui n'est pas grand-chose à l'échelle de la survie d'une espèce, mais enfin pour nous c'est déjà beaucoup. Et le podcast, c'est pendant un an. demain, qui s'intéresse encore au règlement du conflit israélo-palestinien, émission à l'occasion des législatives en Israël.